11 novembre 1996, cours de Raveman Shir HaShirim à la synagogue de Montevideo.
Alors on va essayer de traduire. Que tapouar. Alors je vais tout de suite tapouar. On n'a pas la traduction. En hébreu moderne, tapouar veut dire le pommier. Mais dans la traduction du Midrash, il s'agirait du étrog. Alors qu'est-ce que veut dire le mot tapouar? On ne sait pas. Tapouar, c'est un fruit qui doit être rond. Tofer, ça veut dire gonflé. Quel est ce fruit? On ne sait pas. Juste, on sait qu'il sent bon. Que tapouar beatseaya. Peut-être vous avez découvert quel est ce fruit. On va voir. Alors, que tapouar comme le tapouar. Beatse Ayar, parmi les arbres de la forêt, Ken Dodi Ben Abanim. Ainsi est Dodi, mon ami, Ben Abanim, d'entre les garçons. Betsilo, on va traduire sous son ombre, Tsel c'est l'ombre, bien que Betsilo veut dire à son ombre, Chimadeti, j'ai désiré, veyashavti, et je me suis assis, ufirio, et son fruit, matok, et d'où le chiki à mon palais. C'est bon? Encore une fois, que tapouar beatseaya, comme le tapouar parmi les arbres de la forêt, kein dodi benabanim, ainsi en est-il de mon ami parmi les garçons, betsilo rimati veyashavti, à son ombre, sous son ombre, Trimati, j'ai désiré, via Shavti, je me suis assis, ou Firio et son fruit, et ma toque, et d'où le Chiki à mon palais. Alors, savoir une chose, c'est que le tapouar a comme caractéristique d'avoir très peu d'ombre. C'est pour ça qu'il y en a qui veulent dire que c'est le pommier, parce qu'il a des tout petites feuilles. Il en est de même pour le étrog. Que tapouar beatseayar kendodi benabanim. Ici on parle de du parfum. Du parfum. Rashi dit pourquoi? Shepiriotov betam obereach. Le fruit de ce tapouar est bon et pour le parfum et pour le goût. On va voir pourquoi est-ce que ça a de l'importance. Ce qui va nous intéresser tout de suite, Betsilo à son ombre, Chima de ti. Je l'ai désiré, veyashavti, et je me suis assis, ou firio matok le chiki. Si c'est un arbre qui n'a presque pas d'ombre, alors pourquoi est-il dit, betsilo chimati veyashavti, à son ombre, chimadeti, je l'ai désiré. Pourquoi désiré? Il n'y a qu'à dire, je me suis assis à son ombre, j'ai goûté son ombre, ou firio matok le chiki, et son fruit est agréable au palais. Il est écrit dans le Midrash, le tapouar n'a pas d'ombre, c'est l'arbre fruitier qui a le moins d'ombre. C'est pour ça qu'il est écrit, Chima de ti. J'ai désiré m'asseoir sous cette ombre-là. Parce qu'en vérité, lorsque quelqu'un ne le désire pas, ou lorsque quelqu'un désire avoir de l'ombre, il cherche tous les autres arbres, mais pas celui-là. Chima de ti, c'est parce que je le désirais, yashavti, et je me suis assis sous l'ombre. Donc il y a ici un paradoxe, puisqu'il n'y a pas d'ombre. Comment est-ce que tu t'es assis sous l'ombre? Dit le Midrash, il s'agit du peuple juif au Sinaï, alors que tous les peuples n'ont pas désiré recevoir la Torah, le peuple juif a désiré s'asseoir sous cette ombre-là. Comme s'il avait écrit ceci, en vérité, il n'y a pas beaucoup d'ombre, mais si quelqu'un le désire, il va trouver de l'ombre. Parce que, Betsilo Chimati, puisque je le désirais, alors Yashavti, j'étais vraiment à l'ombre. Donc voilà un arbre qui ne donne pas d'ombre, mais si on le désire, on va pouvoir se reposer à son ombre. Ufirio matok le chiki. Son fruit a été doux à mon palais. Alors on va essayer d'abord de savoir qu'est-ce que ça veut dire. Vous savez qu'il existe un problème dans ce que l'on appelle la Emouna. Emouna, on va traduire confiance. On peut traduire foi. On peut avoir confiance en quelqu'un, on peut avoir foi en quelqu'un. Il faut croire que ce que proposait Akadosh Baruch Hu au peuple juif, en vérité, si l'on regarde de l'extérieur, et si ce n'est pas quelque chose que l'on désire profondément, il n'y a pas d'ombre. Ça veut dire que la protection que Akadosh Baruch Hu accorde à son peuple, elle n'est pas objective. Elle est selon le désir qu'on en a, et suivant le désir de cette protection, suivant le désir de cette ombre-là, qui va protéger des rigueurs du soleil, alors on va pouvoir bénéficier de l'ombre. Ça pose le vrai problème de la Emouna. Vous savez que dans la nature humaine, il est que plus on fait confiance à quelqu'un, et plus il devient digne de confiance. Maintenant, en ce qui concerne la façon dont Dieu dirige le monde, c'est difficile de dire que plus on lui fait confiance, et plus lui est digne de confiance. Mais il faut croire, si on en croit le Midrash ici, que la seule solution pour bénéficier d'une protection ou de bénéficier de l'ombre d'Akadosh Baruch Hu, c'est d'y croire. Parce que objectivement, si on mesure les possibilités, alors il n'y a pas d'ombre. Mais à partir du moment où on le veut, où on y croit, c'est à ce moment-là que ça peut donner de l'ombre. Donc on va essayer de cerner les choses et de définir les choses comme celle-ci. La Emouna, c'est quelque chose que l'on porte à l'autre, l'autre étant ici à Kadosh Baruch Hu, et qui existe, qui se vérifie, on va dire qui se justifie, selon la volonté de l'Emouna que l'on porte. Plus j'aurai la volonté de mettre ma confiance en Akadosh Baruch Hu, et plus j'aurai la possibilité de mettre cette confiance. Si je n'ai pas confiance, alors j'aurai toutes les bonnes raisons pour ne pas avoir confiance. Il faut savoir que c'est une grande discussion qui existe à travers différents versets. Je vais vous dire exactement, c'est un peu technique. Il existe ici une machloket entre le Maharal de Prague et le Chazon Ish dans le livre Emouna Ubitachon. Le Maharal de Prague dit ceci. En vérité, plus un homme met ce qu'il appelle le bitachon, sa confiance, sa croyance en Akadosh Baruch Hu, et cette croyance-là va lui donner tous les éléments de pensée qu'il a eu raison de mettre sa croyance en Dieu. Il dit même plus que ça. Il dit ce qu'il arrive à quelqu'un, et lorsque il peut avoir entre parenthèses des ta'anot, des arguments vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu en ce qui concerne l'attitude de Dieu vis-à-vis du peuple juif ou vis-à-vis de lui-même, il n'a qu'à s'en prendre à lui-même. Plus il mettra un capital de confiance et plus il réussira. Donc pour lui, la confiance se vérifie à chaque instant et à la fin, on n'a plus besoin que ce soit un acte qui soit un acte positif de l'homme vis-à-vis de Dieu, parce que on va le voir à travers la nature, à travers l'histoire ou à travers les éléments qui nous gèrent. Il dit plus que ça, il dit c'est la peur de l'homme qui lui montre qu'il y a des embûches. Et ces embûches existent vraiment en proportion à la peur qu'il a. Moins la personne aura peur, plus il aura confiance, et moins il aura d'embûches. Voilà ce que dit le Maharal de Prague. C'est dans le Sefer, dans la partie de des Notivot, Notiv HaEmouna. comme ça dit le Maharal de Prague. Le Chazon Ish lui dit non. Il dit Bitachon, ça n'est pas de compter sur quelque chose de positif. C'est de savoir que tout ce qui m'arrive, ça vient de la part d'Akadosh Baruch Hu. Que je considère que ce soit une aide ou que je considère que ce soit une embûche, tout ce qui m'arrive, les mêmes mots, il dit les mêmes mots que le Maharal, Assam Bitrono Bakadosh Baruch Hu, celui qui met sa confiance en Dieu, ça n'est pas qu'il doit attendre ou qu'il peut croire que le fait d'avoir mis sa confiance, le capital qu'il a investi, va le protéger ou va faire que Dieu va réagir différemment vis-à-vis de lui. Le bitachon, c'est tout simplement savoir et réagir face à un postulat. Tout ce qui m'arrive, le hasard n'existe pas, l'histoire n'existe pas, ça vient de l'intervention divine ou de la volonté divine. Il dit maintenant, il est vrai que l'on assiste à un phénomène qui est celui-ci, parce que plus quelqu'un met sa confiance en Akadosh Baruch Hu, et plus il réussira dans ses entreprises. Mais ça ne veut pas dire que ça vient du fait qu'il ait mis sa confiance en Akadosh Baruch Hu. Donc si je regarde bien les deux côtés, là me dit voilà, et confiance, plus tu auras confiance, et plus les choses iront dans le sens que tu veux. Parce que je me dis non. Il dit les choses n'iront pas dans le sens que tu veux. Mais il est vrai qu'on assiste dans l'histoire, en étudiant les personnages qui ont mis en confiance dans Akadosh Baruch Hu, eux, ils n'ont pas été déçus, voilà tout ce qu'on peut dire. Maintenant, de dire que c'est un postulat, ou de dire que la confiance, ce capital revient vers toi, ça, on ne peut pas le dire. Parce que la confiance, ça n'est pas de dire, il va m'arriver ce que je choisis qui m'arrive, il va m'arriver ce que moi je pense être bien et pas ce que je pense être mal, mais tout simplement, mets ta confiance en Akadosh Baruch Hu, tout ce qui arrive vient de lui. Il y a des preuves pour les deux. Il y a des preuves pour les deux. Une des preuves pour le Chazon Ish, elle est celle-ci. Il est écrit dans la Gemara, dans le traité de Sakhin, celui à qui il arrive un bonheur doit faire une bracha. La bracha s'appelle Atov Vameitiv. Celui qui est bon et qui fait le bien. Alaraot, sur les malheurs, Mevarer, voilà la bracha qu'il faut faire. Baruch, Dayan, Haemet. Celui qui est le juge et qui juge en vérité. Voilà. Donc il existe une bracha sur quelque chose qui s'appelle un malheur. De même qu'il existe une bracha sur quelque chose qui s'appelle un bonheur. Ça veut dire que les chachamim ont pris comme postulat, il arrive différentes choses dans la vie. Il faut savoir que tout vient à Kadosh Baruch Hu. Une fois, tu le caractérises en étant Tov, et c'est du Tov, alors fais la bracha à Tov Amit. Très bien. Mais une fois, c'est du Ra. Alors que le Maharal, il a l'air de dire, si tu penses qu'il n'y aura que Tov, eh bien il n'y aura que Tov. Donc, les Chachamim auraient peut-être dû me donner le conseil de dire, à la Tovot me varer à Tov Amiti, voilà Raot, il vaut mieux ne pas donner de bracha, il vaut mieux te considérer, que tout tu considères, et te faire considérer, qu'il n'existe pas de Raot, que tout vient à Kadosh Baruch Hu, et si tu penses qu'il ne doit t'arriver que du bien, il t'arrivera que du bien. Pour le Maharal, il y a des preuves aussi. Il a mes différents exemples. On va donner le plus simple, ou le verset le plus simple que tout le monde connaît. Baruch HaGever, Asher Yiftach Bashem, Vehaya Hashem, Miftach. Baruch HaGever. On les dit tous les jours dans Birkat Hamazon. Voilà l'homme, Asher Yiftach Bashem, qui aura confiance en Dieu. Vehaya Hashem, Miftacho. Et à ce moment-là, puisqu'il a confiance en Dieu, Vehaya, et à ce moment-là, Hashem Yiftacho, Dieu sera digne de confiance, si on peut dire. Sera investi de sa confiance, et il peut vraiment avoir confiance. Il est possible que les deux soient vrais. Il est possible que les deux soient vrais. On raconte une histoire qui s'est passée il y a 200 ou 300 ans à Paris. Il y avait une yeshiva à Paris où un rosh yeshiva a parlé du bitachon, de la confiance qu'un homme doit placer dans un kadosh baruch. Ok. Il a dit, si quelqu'un pense et sait que les choses ne viennent que d'Akadosh Baruch Hu, alors ce qu'il désire, ça se réalise. Il y a un élève qui allait acheter un billet de loterie. Et il lui a dit, puisque j'ai entendu le cours, alors je vais gagner. Il lui a dit, comment tu vas gagner? Ben, imagine, il dit 100 000 francs. Il lui a dit, écoute, je t'achète le billet tout de suite, 80. Ah, il a dit, pourquoi pas. Et il a vendu 80. Il a dit, tu vois la confiance. Si tu avais vraiment confiance, tu ne l'aurais pas laissé, même pour 99,99. Parce que celui qui a confiance, il ne doit pas essayer de brader en étant sûr que ça vient maintenant, plus qu'après. Il faut savoir qu'on peut raconter des histoires à l'infini pour montrer que le Maharal a la raison et que celui qui place sa confiance totale, il y a même des gens qui faisaient de cette confiance un principe de vie. Il est connu que en Russie il y avait le siècle dernier un homme qu'on appelle le Saba Milovardok. Pour montrer aux élèves la confiance que l'on devait avoir, il sortait avec eux dans la nuit et il leur disait, on va aller étudier à tel et tel endroit. Les élèves lui disaient, mais là-bas il n'y a pas de lumière. Il disait, si, si, il y a de la lumière. Ils arrivaient à l'endroit, il n'y a pas de lumière. Et tu vois qu'il n'y avait pas de lumière. Et à ce moment-là, invariablement, il y avait quelqu'un qui passait et qui leur donnait de la lumière. Il y a pire que ça. Il y a un rabbe connu qui était rabbe à Yerushalayim, qui s'appelait Rabbi Chaim Zonenfeld, et qui témoigne que lorsqu'il était élève à la yeshiva, chaque fois qu'il avait besoin d'argent, il allait dans la rue et il trouvait quelque chose. Chaque fois qu'il tentait quelque chose, il avait toujours exactement ce qu'il fallait, selon la somme exacte. Donc on peut multiplier les exemples à l'infini. D'abord, les contre-exemples, on ne les connaît pas. Et puis, on peut toujours dire dans le contre-exemple qu'il n'avait pas vraiment confiance. Donc, c'est bien que ça ne puisse pas se prouver. En ce qui concerne la façon que l'on doit comprendre les choses, il est évident qu'on peut comprendre que les choses se passent de telle façon et on va essayer de comprendre pourquoi. Et qu'en vérité, il n'existe pas une grande marloquette entre le Maharal et le Chazon Ish. Tout le monde connaît l'histoire de Rabbi Akiva, qui est écrit dans la Gemara, qu'un jour Rabbi Akiva était parti en voyage, il avait amené un âne, il avait une poule pour avoir des œufs, et il avait du feu avec lui, il avait un élève avec lui, Ils sont arrivés le soir dans une auberge, et l'aubergiste a refusé de les recevoir. Et l'élève a demandé à son maître, qu'est-ce qu'on va faire, où est-ce qu'on va dormir, on est perdu. Alors il lui a dit, Kolman de Rahmana Avid, le Meitav Avid. Tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. Ils sont allés dans la forêt. Il y a eu un orage, la pluie a éteint le feu, la foudre a tué l'âne, la poule est partie, ils sont retrouvés le lendemain matin sans rien. Et ils sont repassés devant l'auberge, et l'auberge avait été brûlée, et tous les habitants décimés par des brigands. Rabbi Akiva lui a dit, tu vois, Kolma David Rahmana, le Tavati. Qu'est-ce qu'on doit comprendre de cette histoire-là? D'abord, il faut aussi avoir conscience qu'il existe des Ra'ot et des Tovot. Parce que celui qui croit que tout est Tov, celui-ci, il n'arrive pas à s'en sortir dans la vie. C'est ça qu'on dit au nom du Baal Shem Tov, que tout le monde connaît qu'il y avait un homme qu'on appelait Ish Gamzu. Chaque fois, il disait Gamzu le Tova, ça aussi c'est pour le bien. Baal Shem Tov dit, heureusement que lorsqu'on lit l'histoire de Pourim, on voit que Mordechai, c'était pas quelqu'un qui disait Gamzu le Tova. Parce que sinon, au lieu de réagir lorsqu'est apparu le danger, il aurait dit Gamzu le Tova et tout aurait été perdu. Lorsqu'on voit un danger, il faut savoir réagir. Et il faut savoir dans quelle proportion et comment. On vient, on dit Gamzetov, Gamzetov. C'est à ce propos-là que la Gemara dit à la Raot Mevarer. On doit savoir qu'est-ce qui s'appelle Tov et qu'est-ce qui s'appellera. C'est-à-dire que la confiance qu'on peut placer dans la Kadosh Baruch Hu ne fait pas que je dois me tromper de définition et de savoir qu'est-ce qui s'appellera et qu'est-ce qui s'appelle Tov. On va essayer de déterminer qu'est-ce qu'on peut appeler Tov et qu'est-ce qu'on peut appeler Ra. On a déjà dit la définition du Tov et du Ra. Le Tov, c'est ce qui va dans le sens de la création. Le rat, c'est ce qui va dans le sens inverse. Lorsqu'il m'arrive quelque chose, comment vais-je savoir si c'est tov ou si c'est rat? Tout ce qui me propulse en avant vers le but que je crois être le mien, vers le but que je crois être le vrai, ça s'appelle tov. Toute embûche et tout ce qui me pousse en arrière, ça s'appelle rat. Donc, on doit bien savoir qu'est-ce qui est tov et qu'est-ce qui est rat. Si c'est comme ça, qu'est-ce qu'il voulait Rabbi Akiva? Rabbi Akiva, il dit, Kolman David Rahmana, le Tavavi, tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas de Ra. Ça veut dire que si dans ma vie, j'ai des choses qui me poussent et j'ai des choses qui me repoussent, les choses qui me repoussent me sont aussi utiles. Et elles sont aussi adaptées à mon cas que les choses qui me poussent. Pour que je puisse rester libre dans mon libre arbitre, que je puisse progresser, je suis obligé d'avoir une proportion que je ne connais peut-être pas toujours, mais que le bon Dieu connaît, de choses que j'appelle Tov et de choses que j'appelle Ra. Lorsque Rabbi Akiva, lorsqu'il a perdu quelque chose, il a dit le Tavavid, c'est pas parce que c'est quelque chose qui s'appellera maintenant que, objectivement, le but n'est pas Tov. Parce que le but, ou la raison pour laquelle Dieu m'a créé, c'est sûrement pas pour me faire du rat, et ça n'est sûrement que pour me faire du tov. Le rat est là pour pouvoir être surmonté, et pour que moi je puisse aussi, pas seulement être poussé, mais pouvoir aussi être repoussé, pour que je puisse moi-même me mettre au-dessus des choses. Donc c'est ça le sens de dire le tavavid, gamzu le tova. Ça n'est pas de dire, je pense que c'est tov. En vérité, c'est pas tov du tout. Seulement le rat aussi, la finalité du besoin du rat dans le monde, il est aussi le Tova. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Maintenant, encore une deuxième chose. Vous savez qu'il est écrit dans le Ramban, dans Nachmanide, au début du Sefer Bereshit. que tout ce qui est chok, tout ce qui est loi de la nature, c'est un voile qu'Akadosh Baruch Hu a mis devant la perception qu'on pourrait avoir de lui. S'il n'y avait pas ces lois de la nature, à chaque instant, je remarquerais que tout ce qui me vient et tout ce qui arrive, c'est la volonté absolue et unique du Créateur. La nature est faite de telle sorte qu'elle obéit à des lois, peut-être l'histoire même obéit à des lois, peut-être que le hasard même obéit à des lois, qu'on puisse tout cerner pour que l'on puisse faire dépendre les choses, non pas du métaphysique, mais du physique. C'est-à-dire qu'on peut passer sa vie à étudier tout ce qui est physique, à en déterminer des lois immuables, et c'est vrai. Tout le problème, pourquoi ça existe? Le pourquoi, dit le Rambam, ça existe pour que l'homme puisse de lui-même considérer le métaphysique et ne soit pas obligé de le percevoir. Ça veut dire que les choses ne dépendent pas de ma perception. Mais ma perception des choses fait que je puis voir dans tout événement, dans toute loi, qu'elle soit aussi répétitive et aussi naturelle que possible, je dois pouvoir voir le fruit du hasard ou d'une loi immuable, de même façon que je dois pouvoir voir la volonté divine et le fait que le monde soit régi avec une raison métaphysique. Ça, c'est mon libre choix à chaque instant. Et pour que ce choix se maintienne, je suis obligé d'avoir ces deux possibilités. Donc on est obligé de considérer que tout ce qui a été créé, que j'appellerais naturel, normal, et c'est la répétitivité qui nous fait penser qu'il s'agit d'une loi et qu'il s'agit de quelque chose qui ne sera pas changé, qui ne dépend pas de la volonté divine, je suis obligé de considérer que c'est un voile qui a été mis devant la perception absolue que l'homme a de la volonté divine. Ça veut dire que cette volonté maintenant, c'est à moi de l'exercer, mais elle ne viendra pas du dehors. C'est-à-dire qu'il n'existe pas chez nous de foi ou de confiance, ou tout ce qu'on dirait, qui viennent de l'extérieur. Tout doit venir de la façon que j'ai de percevoir les choses. C'est mon choix, c'est mes idées, c'est à moi d'arriver à percevoir ce que je crois être vrai. Si on accepte ce postulat, à partir du moment où j'ai une conscience absolue que toutes ces lois de la nature, tous ces événements dont je pense qu'ils sont inéluctables, en vérité, ils ne me concernent en rien. Ils sont là simplement pour me cacher ma vérité. À partir du moment où je l'aperçois d'une façon claire et absolue, ils n'ont plus de raison d'être. Encore une fois. Si on accepte ce postulat du Rambam, la seule raison d'être et la seule raison de la répétitivité absolue des lois de la nature, la seule raison pour laquelle nous considérons des événements qui sont arrivés ou qui arrivent comme inéluctables, et qu'en n'ayant aucune possibilité de se dégager parce que c'est naturel, c'est normal, c'est pour que je puisse être devant le choix. À partir du moment où j'ai compris ce postulat, je n'ai plus de raison d'avoir de référence par rapport à ces choses-là. C'est pour ça que la Gemara raconte dans le traité Taïm, que l'on connaît cette Gemara, Rabbi Hanina, lorsqu'il n'avait pas d'huile pour allumer les bougies de Shabbat, il mettait du vinaigre, Miché Amar la Shemen Veyadlik, Yomar la Chomet Veyadlik. Celui qui a pu dire à l'huile de s'allumer, c'est sûr qu'il pourra dire aussi au vinaigre de s'allumer. Ça, c'est un postulat dont nous devons croire, nous devons penser que les choses ne sont là que pour nous donner le choix. À partir du moment où je vis dans une perception autre des choses, je n'ai aucune raison d'être soumis à ces lois. C'est la raison pour laquelle vous verrez que dans le livre Nefesh HaChaim de Rabbi Chaim de Volozhin, vous pouvez procurer les traductions françaises, il est écrit ceci. Il est écrit, Reb Chaim de Volozhin dit, Zgula nifla liot nitzol mikol davara. Comment est-ce que quelqu'un peut échapper à ce que lui pense être rat? Et il dit, c'est très simple. Il faut avoir une perception absolue que en od milvado. Le prophète l'a traduit en donnant un verset, en od. Il n'existe pas encore milvado à part lui. À part Dieu, il n'existe rien dans le monde. C'est ce que nous lisons dans la Kedusha tous les jours, que les anges demandent Ayem kom kvodo, kvodo male olam. C'est-à-dire la présence divine, elle remplit le monde entièrement. C'est moi qui peux l'occulter en pensant qu'il y a des choses qui sont inévitables. Mais je ne suis pas obligé de le penser. Et dis donc, Ephraim de Volozhin, il serait impensable que quelqu'un qui a une conscience claire que en od milvado, il n'existe rien à part la volonté divine, qui puisse être soumis à une volonté qui ne soit pas la volonté divine. Ce qui ne veut pas dire qu'on ait le droit de risquer quoi que ce soit pour ça. Ça veut dire que celui qui pense qu'il échappe naturellement aux lois de la nature et qu'il peut voler comme Icare, là-dessus on ne lui garantit rien du tout. Seulement, il faut savoir que ça existe. L'exemple que l'on donne toujours, c'est que ce Rabbi Chaim de Volozhin, il avait un arrière-petit-fils qui s'appelait Rabbi Chaim de Brisk, qui lorsque son fils a dû se présenter à l'armée russe, il fallait savoir qu'à ce moment-là, l'armée russe était 25 ans, il lui a dit, tu regardes dans le Nefesh HaChaim, et il a marqué comment un homme peut faire pour n'obéir à aucune volonté qui ne soit pas la volonté divine. Son fils est allé se présenter à l'armée. Il a attendu son nom toute la journée. À la fin du soir, il a demandé pourquoi on ne l'avait pas appelé. On lui a demandé comment il s'appelait. Et il n'était plus sur les listes. Ça veut dire que à partir du moment où soi-même on sait vivre d'une autre façon, on devrait pouvoir ne pas être victime, entre parenthèses, des lois qui sont celles qui régissent les événements. Je vous dis entre parenthèses pourquoi. Tout le monde connaît l'histoire de la Gemara dans le traité de Kiddushin, Elisha ben Abuya, lorsque quelqu'un lui a demandé pourquoi est-ce que tu as quitté l'enseignement de la Torah et tu es devenu ce qu'on appelle Acher, puisqu'on appelait Acher, il était devenu un autre. Il a raconté qu'il avait vu un enfant qui avait obéi à son père, qui avait réalisé la mitzvah de Kantzipor, c'est-à-dire lorsque l'on veut prendre les œufs, il faut envoyer la mère d'abord. Il était monté sur un arbre et il était tombé, il était mort. Et dans les deux cas, il est écrit dans la Torah, Ve'arachtayamim, notamment tes jours seront multipliés. Et dans le Kibboudav, dans le fait d'obéir à la volonté paternelle, il est écrit le Ma'anir Bouyamecha. Et dans la mitzvah de Kantzipor, il est écrit Ve'arachtayamim. À ce moment-là, on lui a répondu, mais est-ce que tu ne connais pas l'enseignement de Rabbi Akiva? Que Rabbi Akiva a dit que ces yamim-là est ce qu'on appelle le olam chez Kulotov, c'est que ça n'est pas obligatoire que ce soit dans ce monde-ci. Les yamim peuvent être dans le monde à venir. Ok. Quel était le problème d'Elisha ben Abouya? Il est évident qu'il savait aussi apprendre un verset et qu'il pouvait dire comment bien qu'il va. Là, on est obligé de dire que cela dépend de la volonté de la personne. Lorsque la Torah promet quelque chose, ou lorsque la Torah annonce quelque chose, il est évident qu'il doit y avoir, même à l'intérieur de ce que la Torah annonce, un choix. Celui qui veut penser qu'il y a deux possibilités de comprendre, puisqu'il y a deux possibilités de comprendre, il peut se mesurer à ces choses-là. Celui qui veut penser qu'il n'y a qu'une possibilité de comprendre, il est libre aussi de penser qu'il n'y a qu'une possibilité de comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que celui qui va essayer et pour lequel ça ne va pas marcher, c'est peut-être que les premières fois, ça ne marche pas. Parce que justement, ce qui est en train de lui arriver, c'est rare. Et c'est pour voir jusqu'où les choses vont le pousser. Parce qu'il n'y a pas de raison non plus qu'on lui fasse la vie facile et que lui découvre des trucs et qu'il puisse s'en sortir à travers des trucs que la Torah lui propose. Ça veut dire que je trouverai toujours que la Torah a une possibilité de s'en sortir, même si ça ne marche pas comme on l'a dit. Et il est évident que c'est obligatoire. Parce que sinon, tout le principe du Tov et du Ra, il est de nouveau annulé. À quoi ça servait de cacher la présence divine par ce qui est naturel? Si on me donne la possibilité et que cette possibilité devient un truc, alors à ce moment-là, on n'a rien fait du tout. C'est comme si on me disait, le bon Dieu a voulu pouvoir te mettre à l'épreuve, mais comme le Ramban est venu et il t'a donné le truc, eh bien c'est fichu. Mais non, c'est pas parce que le Ramban va te donner le truc que c'est fichu, pas du tout. C'est maintenant que commence le problème. Parce que maintenant tu vas voir des gens qui ont fait exactement ce que le Ramban dira, et tu vas voir qu'ils se sont plantés. Parce que si ça n'existait pas, on n'aurait rien gagné de nouveau. Donc il faut savoir que c'est un postulat, et c'est normal que ça se passe comme ça. Et si ça se passait pas comme ça, il faudrait inventer que ça se passe comme ça. Ça même, c'est dans les mots du Ramban. C'est-à-dire que celui qui utilise le truc, il doit savoir que le truc ne marche pas toujours. Parce que s'il marchait toujours, ça ne dépendrait plus de lui, ça deviendrait une notion objective. Donc ça redeviendrait une loi de la nature. Et de nouveau, on a compris. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pour ça qu'en vérité, si on réfléchit, la discussion entre le Chazon Ish et le Maharal, elle n'est pas évidente. Qu'est-ce qu'il me dit le Maharal? Il me dit, je vais t'attendre plein de versets, plein d'histoires, tout, tu vas voir. Place ta confiance en Kadosh Baruch Hu, tu ne seras pas déçu. Viens le Chazon Ish, il me dit, mais ne crois pas qu'il t'arrivera à rien de ce qu'on appelle le Ra, parce que la confiance est de savoir que tout vient d'Hachem. Mais Ra ou Tov, ça, tu as besoin des deux. En vérité, ce que le Maharal est venu dire, ça n'est pas un patente, ça n'est pas un truc. Il vient te dire que c'est vraiment comme ça. Maintenant, quand toi, tu vas éprouver que ce n'est pas comme ça, alors tu es aussi obligé de te servir de cette notion du Chazon Ish, qu'il n'y a pas de garantie. Parce que s'il y avait de garantie, de nouveau, tout l'enseignement n'aurait servi à rien du tout. C'est-à-dire qu'en vérité, les deux sont vrais. Celui qui se place au-dessus, il est vraiment au-dessus. Il ne veut pas dire que celui qui passe au-dessus, il est au-dessus du Nisayon, parce que quelquefois, bien qu'il soit au-dessus, il a encore besoin de l'épreuve. Il en est de même pour la Tfila. Vous savez que les jours de jeûne, on ajoute dans la Amida un paragraphe qui s'appelle Anenu. À la fin, il est marqué ceci. Terem yikro vani ene odem davrim vani yeshma. Lorsque quelqu'un prie terre et micro, il n'aura pas ouvert la bouche que Dieu a déjà répondu. Odem Medabrim, il est encore en train de parler Vani Yeshma, j'ai tout entendu. Est-ce que ça veut dire que le bon Dieu est toujours obligé de me répondre oui? À partir du moment où j'accepte et je comprends totalement qu'il peut me répondre non, alors à ce moment-là, j'ai une ouverture dans le fait qu'à cause de ma tfila, il doit répondre oui. Mais tant que je crois que la tfila, c'est un truc pour qu'il me réponde oui, et que j'ai attrapé le bon Dieu dans mes filets, et que j'ai reconstitué une nouvelle loi inéluctable et immuable, de nouveau, je suis rentré dans le même processus, et de nouveau, j'ai rien compris. Donc, je dois considérer qu'il est possible qu'on me réponde non aussi. À qui on répond oui, à qui on répond non. Si on avait la solution, alors de nouveau, on serait rentré dans une loi qui est de nouveau une loi naturelle, et de nouveau, on en chercherait des trucs. C'est ça la différence entre une promesse qui est faite par la Torah, entre la confiance qui est demandée par Akadosh Baruch Hu, et ce qu'on appelle la superstition. La superstition, il y en a d'autres qui appellent ça la magie, il y en a qui appellent ça tout ce que vous voulez. C'est le fait d'avoir reconstitué une autre loi dans laquelle je sais exactement comment faire pour que ne m'arrive pas ou m'arrive telle et telle chose et je crois avoir échappé aux autres lois. Mais en vérité, c'est impossible. Parce que si je pouvais échapper aux autres lois, alors, on n'aurait pas besoin de trouver des choses tellement compliquées. Alors, t'as qu'à échapper aux autres lois, normalement. Pourquoi est-ce que tu es obligé de faire tout ça? C'est en cela que la Emouna ne doit jamais glisser vers la superstition. Il ne s'agit jamais d'un automatisme. Il ne s'agit jamais d'une nouvelle loi. Parce que si c'est une nouvelle loi, c'est nouveau un truc qu'on utilise et ça n'a aucun intérêt. Donc, il faut savoir donc deux choses. Que c'est vrai que tout ce qui m'arrive, c'est pour le bien au fond. Mais moi, je ne peux que le concevoir, mais je ne peux pas le réaliser. Parce qu'objectivement, quand quelqu'un me fait un croche-pied, objectivement, c'est rare. Maintenant, c'est vrai qu'en me faisant un croche-pied, il m'a peut-être évité de glisser de l'autre côté, et je me suis cassé une côte alors que je me serais cassé un pied, une jambe. C'est possible, tout est possible. Objectivement, on appelle ça. Ah, tu vas me dire, mais ça veut dire qu'il y a du bien et du mauvais. Oui, il y a du bien et du mauvais. Mais il faut savoir quelle est la définition du tov et du ra. Le mauvais, ça n'est pas quelque chose qui est contre moi, c'est aussi quelque chose qui est pour moi. Mais je dois quand même le caractériser comme étant du ra, parce que c'est quelque chose qui m'empêche d'avancer, qui m'empêche d'aller dans le sens que je dois aller. Il est vrai qu'au fond, j'ai besoin de ça pour aller, donc je vais appeler ça le top. On ne peut pas échapper à ce système-là. Celui qui pense échapper à ce système-là, que ce soit par l'aïmouna, que ce soit par le bitachon, que ce soit par tout ce qu'il veut, il n'y a aucune autre possibilité. Quelle est la différence entre ce que nous appelons l'aïmouna et le bitachon? La Emouna, c'est théorique, et le Bitachon, c'est pratique. Lorsque l'on parle de Emouna, c'est quelles sont les idées, les circuits qu'un homme définit dans sa tête et avec lesquels il se déplace. C'est pour ça que la plupart des gens ont de la Emouna, mais ils n'ont pas de Bitachon. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu demandes à quelqu'un qui sait qui régit le monde, c'est le bon Dieu. Tu demandes à quelqu'un qu'est-ce que c'est le destin, et bien tu dis ça n'existe pas, j'ai eu vos choix. Il a des idées très claires, et il est ce qu'on appelle un ma'amin, un croyant. Maintenant, il va ouvrir une usine, ou un magasin, il va commencer à prospérer. Il y en a un autre qui s'établit juste à côté de lui. Alors il va aller au Beit Din, il va demander est-ce que l'autre a le droit de le faire, est-ce qu'il n'y a pas une loi qui interdit de le faire, est-ce que ceci ou est-ce que cela. C'est là où la Emouna a glissé, et elle ne s'est pas transformée en bitachon. Parce que si ta Emouna est vraie, tu sais très bien que ce qui est pour toi, c'est pour toi, et que tu ne peux pas obéir à une volonté qui est extérieure à la tienne. Donc qu'est-ce que ça peut te faire que l'autre se mette à côté ou non? Tu dis, mais je vais perdre de l'argent. Si tu crois que tu perds de l'argent à cause de l'autre, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi? Parce que dans le système de la Emouna, ça ne se justifie pas. Ça, c'est la différence entre ce qu'on appelle la Emouna et le Bitachon. La Emouna, c'est très facile. Sa traduction dans la réalité est appelée le Bitachon. Si on n'arrive pas à la traduire dans la réalité, c'est qu'on a un problème dans la Emouna. Il n'est pas très intéressant de savoir que c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre et de discuter et de savoir comment est-ce qu'on peut arriver à rendre l'histoire de la création du monde crédible ou sensible aux théories scientifiques ou non. C'est pas très important ça. Pourquoi? Parce que c'est théorique. Et les gens ne butent pas dans la théorie, ils butent dans la pratique. C'est ça qui est difficile. C'est la raison pour laquelle tout le monde sait qu'on répond à la question qui est posée sur le Rambam. Le Rambam compte la mitzvah de Emouna comme une mitzvah de la Torah. Les commentaires demandent, croire en Dieu, ça ne peut pas être une mitzvah. Parce que si je crois, je n'ai pas besoin qu'on me l'ordonne. Et si je ne crois pas, je ne crois pas en la mitzvah non plus. Alors à quoi ça sert de me donner une mitzvah de croire en Dieu? La réponse, tout le monde la connaît, c'est la réponse du Maharal de Prague. Il dit, lorsque le Rambam a parlé de la Emouna, il n'a pas parlé de la Emouna dans la conscience qu'on a des choses. C'est vrai. Si tu ne crois pas, c'est pas la peine qu'on te dise qu'il y a une mitzvah, parce que tu ne crois pas en la mitzvah. Et si tu crois, tu n'as pas besoin qu'on te dise que c'est une mitzvah, parce que déjà tu crois. Il parle du bitachon, de la traduction dans la réalité. C'est qu'on peut être croyant, mais on peut croire que ça peut rester au stade de la croyance et de la conception des choses, mais dans la réalité, on va fonctionner autrement. Dans la réalité, tu ne peux pas fonctionner autrement. C'est ça la mitzvah d'Emouna. La mitzvah d'Emouna, c'est de traduire sa croyance et sa conception des choses dans la réalité. Donc la mitzvah d'Emouna, c'est que j'ai une mitzvah d'agir à chaque instant selon ce que je crois. Ça veut dire que la mitzvah d'Emouna n'est pas dans la conception des choses que j'ai, c'est dans la façon dont j'agis. Est-ce que je tiens compte de cette conception ou je ne tiens pas compte de cette conception? C'est ça ce que nous appelons l'Emouna. C'est-à-dire que quelqu'un qui se rattacherait à des superstitions, même s'il est sûr que c'est Dieu qui a créé le monde, même s'il est sûr que c'est Dieu qui dirige tout, celui-ci, il transgresse la mitzvah de Emouna. Lorsque quelqu'un se fie à des choses qu'on appelle horoscope, les mazalot, tout ce qui est en vogue aujourd'hui, il transgresse la mitzvah de Emouna. La Emouna, encore une fois, ça n'est pas d'avoir des idées justes. La Emouna, c'est de savoir que ces idées-là sont vraies et qu'elles peuvent être mises en pratique, aux risques et périls que cela va constituer pour moi, pour le peuple juif, pour tout le monde. Aux risques et périls, parce que c'est ça, en vérité, le problème. On a souvent donné l'exemple. Quelqu'un revient le soir, il voit que des gens ont pénétré chez lui, ils ont mis un camion de déménagement devant la porte, ils ont tout pris. C'est vrai qu'il a le droit d'aller au tribunal et que ce c'est bête de ne pas y aller pour essayer de récupérer son bien. Il va porter plainte. Il va aller au Bédine. Très bien. Seulement à côté de ça, il doit se demander, j'habite au numéro 46. Pourquoi le 44 et le 48 ont été épargnés et on est rentré au 46? Ça n'a plus rien à voir avec ce que lui doit le voleur. Ça, c'est son problème personnel. Ça veut dire qu'on doit bien serrer les choses. La Emouna, c'est une chose. Et la façon de fonctionner ne doit pas être en contradiction. Et ça n'est pas en contradiction. C'est pas parce que je pense que j'ai un problème qu'il est permis à l'autre de venir et de me piller ce que j'ai chez moi. Pourquoi? Parce que le bon Dieu n'a certainement pas demandé de s'occuper de ses affaires. Et si lui a fait ce que le bon Dieu a voulu, c'est parce que lui, c'est quelqu'un de pas bien et je vais aller récupérer mon bien chez lui. Il en reste que je dois savoir que ce qui m'est arrivé, ça m'est arrivé à moi, ça n'est pas arrivé à lui. Lui, c'est son histoire, et moi, c'est mon histoire. Dans son histoire, je peux intervenir, on appelle ça le dîme, et c'est mon droit, parce que vis-à-vis de l'autre, j'ai des droits, mais vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, je suis obligé de faire mes comptes. Et ces comptes-là n'ont absolument rien à voir. En vérité, il en est de même pour la crise. Il en est de même pour tout. On peut discuter du pourquoi et du comment de la crise, du pourquoi et du comment des problèmes de société, du pourquoi et du comment des problèmes de marché. Ça doit être très intéressant, c'est très intéressant, il faut s'y intéresser. Mais il faut relativiser les choses. Sinon, on tombe exactement dans le même système que celui qui va voir sa voyante. On est exactement dans le même système. Alors, comment est-ce qu'on va vivre dans les deux? Ça, c'est le problème de l'homme. L'homme doit vivre dans un monde matériel, dans un monde du maasé, et en vérité, sa tête, elle doit être dans le monde des anges. C'est pour ça qu'on avait dit qu'il s'appelle Adam, parce que son nom, c'est son nom en tant qu'être spirituel. Mais sa condition, c'est d'être un être matériel. Donc on ne peut pas échapper à ces problèmes-là. Celui qui pense qu'il peut échapper à ce problème-là, il s'en sort jamais. Donc maintenant on comprend ce qui est marqué ici. Betzilo rimati. En vérité, si je regarde objectivement, c'est l'arbre qui donne le moins d'ombre. Pourquoi? Parce qu'on m'empêche plein de choses. Dans la Torah, il y a marqué l'otignof, l'otinaf, l'otissi, 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 ça, ça, ça. Ça veut dire que on me demande beaucoup plus de choses et je suis donc plus à la merci de réprimande que quelqu'un d'autre. Il faut savoir que si on a 7 mitzvot ou si on a 613, on a beaucoup plus de chances de se faire avoir avec 613 qu'avec 7. On a aussi beaucoup plus de chances de réussite avec 613 qu'avec 7. Parce que 7, si on perd une, on perd un septième. Dans 613, si on perd une, on ne perd qu'un 613e. Mais il en reste que de même qu'on a plus de chances de réussir, on a aussi plus de chances de ne pas réussir. À partir du moment où on regarde les choses objectivement, alors il n'y a pas d'ombre. Si tu regardes cet arbre-là, il y a peut-être une bonne odeur. D'ailleurs, cette odeur, tout le monde s'en est inspiré, mais personne ne veut l'assumer. Mais il n'y a pas d'ombre. Là-dessus, le peuple juif a dit « Betzilo rimadeti » Puisque j'ai voulu être sous cette ombre, alors j'ai trouvé l'ombre et j'étais assis sous l'ombre. Je dis, mais comment tu es assis sous l'ombre dans le premier? Il n'y a pas d'ombre. Il faut croire que ça dépend de la personne. Et celui qui a vu qu'il y avait de l'ombre, eh bien, vraiment, il y a eu de l'ombre. Encore une fois, il faut bien avoir la tête claire dans ces problèmes-là. Et de savoir que on peut se conduire de telle ou telle façon. On doit pouvoir arriver à se conduire de telle ou telle façon. On n'a jamais rien à attendre. Si on attend et que ça se réalise, c'est très bien. Si on attend et que ça ne se réalise pas, c'est bien aussi, mais c'est bien dans une autre mesure. Donc ça, c'est les choses dont il faut avoir la tête tout à fait claire. On va essayer de continuer. Si vous avez des questions, il ne faut pas se gêner. Voilà, on n'en est pas là encore. Doucement, doucement. Donc on va recommencer le verset. Que ta pouar baatseaya. Que ta pouar baatseaya. Ken Dodi Benabani. De même que cet arbre. On dit Rashi qu'il a une bonne odeur et un bon goût. C'est ainsi Dodi Ben Abanim. Dodi Ben Abanim, si on voulait traduire exactement, on devrait dire Dieu parmi les autres dieux. Dieu parmi les autres possibilités. Dieu parmi les autres idéologies. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Parce qu'il faut savoir que l'idée de Dieu, c'est la plus pratique, la plus rassurante, la plus possible. Et pourtant, elle est acceptée dans la réalité par un petit nombre de personnes. On vous donne la solution à tous les problèmes. C'est Dieu qui a créé le monde, c'est lui qui fait tout marcher. N'aie pas peur, il ne va rien t'arriver. C'est la chose la plus rassurante, la chose la plus agréable. Que ta poire batte Seria. Pourquoi est-ce que les gens ne sont pas attirés vers ça? C'est ça le problème du verset. Que ta poire batte Seria. Il y a une odeur, il y a un parfum, et il y a un goût. Tu as tout. Il y a des fruits sans parfum, et il y a des fruits sans goût. Tu as tout à ta disposition. Qu'est-ce que c'est que le goût, et qu'est-ce que c'est que le parfum? Le parfum, c'est la mitzvah, et le goût, c'est l'étude. Ce que HaKadosh Baruch Hu me propose, c'est pas seulement la conception des choses, c'est le fait de pouvoir vivre les choses. Et souvent les gens vous disent, ah les croyants, c'est formidable, si jamais je pouvais être croyant, mais c'est formidable, vous vivez une vie mais passionnante. C'est ce qui est marqué ici. Que ta poire batte Seria, quand on regarde, tout le monde va vous dire, c'est formidable, peuple juif, te rends compte. Le problème, il vient après. Betsilo, Primati Veachafti. Il faut avoir envie de s'asseoir à cet endroit-là. Parce que sinon, ça ne marche pas. Ça veut dire que l'incroyant, ce n'est pas quelqu'un qui ne peut pas croire. C'est quelqu'un qui ne peut pas risquer. Et ça, c'est différent. Assieds-toi à l'ombre de l'arbre qui n'a pas d'ombre. Et après, tu verras. C'est pour ça que les gens disent, le croyant, c'est formidable. Moi, je n'arrive pas à être croyant, mais c'est formidable. Parce que, pour pouvoir avoir une part là-dedans, il a fallu risquer. Et au fond, c'est ce que les gens disent. D'être croyant, c'est formidable, ça veut dire d'avoir le courage de risquer et de vivre selon quelque chose qui ne se voit pas, mais qui se conçoit, et non pas selon quelque chose qui se voit, même si au fond, je ne conçois pas. Mais ça ne m'intéresse pas, puisque en vérité, je sais comment ça marche. Ah, maintenant, comment c'est conçu, comment je conçois, c'est pas très intéressant. Je vais vous dire que ça peut faire, comment le bon Dieu fait marcher les choses. Ça marche, prends le train. Pas obligé de savoir comment est-ce qu'on a fait la mécanique, et qu'est-ce qui se passe là-dedans. Prends le train. Prendre le train, ça veut dire que tu es une victime. Tu n'es pas maître des choses. Pour se rendre maître des choses, on est obligé de risquer. Yachavti. On est obligé d'aller s'asseoir sous cet ombre-là. Ça peut ne pas être marrant tous les jours. C'est pour ça que ça se crie marqué ici. Que ta poire batseya kendo divinavanim. Il est évident que chacun, lorsque il voit l'idée du monothéisme qui a été apportée par Abraham Avinu, ça n'a aucun rapport avec toutes les autres idéologies. C'est la plus tentante. Mais, primatif et achati, il faut l'achmod. L'achmod, ça veut dire désir. Il faut le désir. C'est pour ça que le Razonich dit, Isha Emuna, quel est le croyant? Le croyant, c'est celui que Shato Sha'ata Sheket, mot à mot, son heure, c'est l'heure du silence. Chofshi, il est libre, Mira'avon Ta'avani. De la faim, A.I.M., on dirait nous, du besoin de consommation. Si tout ton problème, c'est la consommation, alors prends le train. La Emouna ne peut se situer que si on a ces deux notions. Sha'ato, sha'ata sheket. Ça veut dire, il n'est pas obligé de faire partie d'un clan ou d'un autre clan. Il est libre dans sa tête pour pouvoir concevoir les choses et il n'est pas obligé de penser comme ça ou comme ça. La plupart des gens pensent, c'est peut-être pas vrai, mais pensent qu'ils sont obligés de penser comme ça ou comme ça. Si je veux être un intellectuel normal, je suis obligé de penser que la religion, c'est l'opium du peuple. Sinon, je fais partie de quoi? On pense que c'est inéluctable. Mais en vérité, c'est pas vrai. Risque. C'est ça ce qu'on appelle château, château, chacun. C'est quelqu'un de paisible. Il n'est pas obligé de se situer comme ça ou comme ça. Il sait qu'il n'a de compte à rendre à personne. C'est quelqu'un qui est libre. Il est chacun. Chacun, ça veut dire, il est calme. Si je n'ai pas ce calme-là, alors je suis obligé de prendre le train. Il y a beaucoup de gens qui vous disent, l'aïmouna, c'est bien. Bon, on verra la retraite. Ça, maintenant, je ne peux pas. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas la possibilité. Chéquette. Chéquette, ça veut dire qu'on est obligé de se retrouver dans les choses. Il n'appartient pas aux choses. Alors, on peut appartenir aux choses dans le domaine des idées et on peut appartenir aux choses dans le domaine du matériel, de la consommation. C'est pour ça que le Chazonej dit « Shato shata shéquette, chofshi mirava ta'amri ». Ça veut dire qu'il a le temps, il a les possibilités, il a la nature qui est adaptée à se poser des questions et de pouvoir y répondre et de pouvoir s'adapter à ces réponses-là. S'il n'est pas dans cette situation-là, c'est pas possible. On ne peut pas être quelqu'un qui a un Isha Emouna. Donc, c'est ça ce qu'il faut comprendre ici. Betzilochimati, il faut le vouloir, il faut le désirer. Mais on ne peut pas désirer tout en même temps. Il faut désirer ça et pas autre chose. À partir de ce moment-là, quelqu'un est libre pour pouvoir concevoir les choses selon sa Emouna. Cette liberté, elle est nécessaire, elle est absolue. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on ne peut pas éternellement vivre la vie des autres. On ne peut pas éternellement penser en réaction vis-à-vis de papa, ou en réaction vis-à-vis de la petite sœur ou du petit frère. On ne peut pas éternellement penser vis-à-vis des autres. On est obligé un jour de faire le vide et de savoir qu'est-ce qu'on pense qui a une valeur et qu'est-ce qu'on pense qui n'a pas de valeur. Et c'est à ce moment-là que les vraies questions se posent. Et c'est à ce moment-là qu'on peut répondre avec les vraies réponses. Si on n'a pas ça, c'est impossible. Il faut arriver à cette remdala, à ce désir. Le désir de s'asseoir sous cet ombre-là. On peut ne pas être arrivé dans sa vie au stade où on a ce désir-là. On peut ne pas y être arrivé. Pourquoi ? Parce qu'on a d'autres problèmes à régler. La Emouna ne se conçoit que lorsque l'on a ce problème à régler et pas un autre. Chaque fois qu'on aura d'autres problèmes, il sera impossible de les régler en même temps que cela. C'est pour ça que le Chazonej dit Isha Emouna. Attention, on ne parle pas de la Emouna dont on a dit la Emouna qui est simplement spéculative ou intellectuelle. On parle de la Emouna, de l'engagement vis-à-vis des choses. Parce que chacun, un jour, a envie de risquer. Ce qui a marqué, eh bien, utilise le bitachon et tu vas voir si ça marche. En vérité, ça va être une curiosité infinie. C'est bizarre qu'il y ait très peu de gens qui ont cette curiosité. Pourquoi? Parce que la curiosité intellectuelle, on peut encore l'avoir. Mais de se rendre libre, totalement libre, pour avoir l'autre curiosité, de voir si ça marche. Et même si la première, la deuxième, la dixième fois, ça ne marche pas, on peut toujours continuer, c'est pas grave. Il y a peu de gens. Il existe peu de gens qui ont ce besoin-là. La solution pour pouvoir accéder à ce besoin-là, c'est d'être libre. Chofshi mira avantavani. Il faut être libre de faim d'autre chose. Lorsqu'on commence à être libre de faim d'autre chose, à partir de ce moment-là, on peut arriver à cette situation-là. Ouais.
À la fin du raisonnement et de la réflexion. Et au départ, pourtant, on avait l'impression que Maharal de Prat était une vision dynamique, d'engagement, et le Chazonej c'était quelque chose de plus...
spéculatif.
Oui, presque une sorte de fatalisme, entre guillemets, en parenthèse, etc., à savoir... Alors, comment est-ce que vous... Et là, quand vous parlez de Chazonej, on a l'impression que c'est le point de vue du Maharal de Prat, c'est-à-dire
voilà.
Il y a un engagement, à savoir j'ai une émouna, je dois la marquer en dehors des lois naturelles, dans l'irrationnel. Les lois rationnelles, je les écarte, j'entre dans l'irrationnel en pleine émouna, en pleine confiance, et en entrant dans l'irrationnel, je fais du pitaphone, puisque j'interviens dans le cours des choses d'une manière irrationnelle, et avec l'émouna, de savoir que tout va tourner d'une manière conforme à ce que je dis.
Alors attention, c'est là que vient le problème.
Oui, voilà. En tout cas, à ce qu'il faut aux choses comme elles doivent arriver, selon la volonté de la cause, il faut que je ne connais pas. Puisque le top, lui le connaît, moi je le connais pas.
Donc c'est pas toujours dans le sens vers lequel moi j'ai investi.
Ce que je veux dire, du fait que simplement j'ai cette émouna de rentrer dans cet irrationnel, ça veut dire que je fais une mitzvah. Je fais une mitzvah parce que je fais un acte volontaire.
Absolument, c'est ce qu'on a dit.
À quelque chose. Donc je trouve que le Razonich se rapproche de la vision dynamique que vous avez évoquée au début du Maharal.
Ok. C'est bon. Absolument. Ouais.
Gamzou et Toba, et puis on vit dans un monde réel avec quand même des lois de la nature. Et à un moment donné, donc, des choses, des choix faciles, des choix ponctuels, ou tard, assaut, défendu, c'est perdu. On ne sait pas choisir en haut, on ne sait pas rendre les voies ascendables, un peu mieux. On a des choix existentiels. On déraille, est-ce qu'il devait donner sa femme à Rage Veroche ou non, pour changer la destinée, etc. Là, il est seul face à lui-même. Je suis Ranaro, il n'y a pas de réponse là-dessus. Bon. Alors, dans ce cas-là, Gamzou et Tova, ou pas Gamzou et Tova, ce qui lui arrive de mal, ou ce qui arrive au clan mal, ou à lui-même mal, il doit éventuellement donner sa réponse, etc. Comment fait-il pour choisir, dire, comment peut-il décrypter, sans savoir si c'est bien dans le sens de agréable ou pas, comment fait-il pour décrypter si c'est tort, dans le sens que ça dort dans le bon sens? Comment peut-on décrypter quand on a un choix important à faire dans la vie, que ça va dans le bon sens, alors que ce n'est pas un problème de moutarde à ressources, c'est un problème de choix, dans le cadre des lois de la nature. Il aurait pu tuer Arash Viroche, et puis on n'en parlait plus, c'était une loi de nature. Il aurait supprimé le problème, par exemple. Ou une autre façon. Donc, il a choisi la façon de donner sa femme.
Alors je vais vous dire,
attention. Comment décrypter, comment choisir? Sans tomber dans le fatalisme de Gamzou et Tova.
D'abord, il ne faut pas oublier que Esther a été prise de force. Ça veut dire que le choix non halakhique, il est très rare. Il est très rare, pourquoi? Parce que même s'il n'y a pas de halakha dans le Shulchan Aruch, il y a ce qu'on appelle les ilchot deot. Il y a des façons de concevoir les choses et des règles qui ne sont pas obligatoirement dans le domaine du moutar et de l'assaut, mais de la façon dont on doit se comporter selon les midot, selon la responsabilité, selon plein de critères qui font qu'on arrive à percevoir qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Maintenant, attention. C'est vrai qu'il y a des choix dans la vie où on est tout seul. Et là, il y a des façons de faire. Je ne veux pas vous dire qu'ici aussi, on peut avoir affaire au surnaturel, mais on peut aussi avoir affaire. Je le mets entre parenthèses, parce que c'est déjà du domaine de la Kabbalah, mais ça peut être du domaine pratique. Je vais vous donner un exemple. Le Rav de Ponovich en 1939 se trouvait en Argentine au moment où les Allemands ont envahi la Pologne. Il ne savait pas où est-ce qu'il devait aller. Est-ce qu'il devait retourner dans sa ville? Est-ce qu'il devait aller en exil parce que il faisait partie de la SEM polonaise et le gouvernement polonais avait constitué un gouvernement en exil à Londres? Où est-ce qu'il devait partir en Eretz Israël? il a fait ce qu'on appelle le Goralagra. Le Goralagra, je vous dis, il faut faire belle attention à ce qu'on dit. Le Goral veut dire le sort. Agra du Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna donne une méthode que l'on peut connaître et qui est celle, lorsqu'il y a des choix qui ne sont pas halakhiques, qui ne font pas partie des déotes parce qu'on est prêt à tout, mais on ne sait pas ce qu'il est intelligent de faire maintenant. Alors là aussi, celui qui met sa confiance dans Akadosh Baruch Hu, là aussi il aura la etza. Alors si vous voulez que je dise comment on fait, c'est très simple. D'abord, il faut jeûner le jour où on le fait. Ensuite, à la fin du jeûne, il faut prendre un Tanakh, une Bible. Il y en a qui disent qu'il faut avoir ce qu'on appelle le Dfus Amsterdam, l'impression d'Amsterdam. Il y en a qui disent que ce n'est pas obligatoire, on peut prendre n'importe quel Tanakh, mais qui est rien que le Tanakh dedans. On l'ouvre et on prend 7 Gilyonot. 7 Gilyonot, c'est un livre composé de cahiers. On prend 7 cahiers. On regarde le 8e. Dans le 8e, on prend 8 feuilles. 7 feuilles, on garde la 8e. À partir de la 8e feuille, on prend 7 pages, on prend la 8e. Dans la 8e, on prend le 7e verset. À partir du 8e verset, on compte 7 lignes et on lit la ligne. Si vous êtes déjà allé à la Yeshiva de Ponovija Bnevrak, vous verrez qu'il est marqué un verset dans Yeshayahu. Ubehar Tzion Tie Pleta. Et c'est sur la montagne de Tzion, Tie Pleta, que sera Pleta le refuge. C'est ce que lui a trouvé lorsqu'il a ouvert. C'est la raison pour laquelle il est parti en Eretz Israël. Et c'était le seul rescapé de sa ville, la ville de Ponovija en Lituanie. Ça, c'est pour vous montrer que même lorsque la mitzvah n'est plus là, il y a encore la mitzvah du bitachon, et elle est encore capable d'être exercée. Mais ça, c'est lorsqu'on ne peut pas. Et on pense que la chose, elle est impossible à résoudre selon le Sechel. Il y a d'autres possibilités. C'est marqué dans le verset Tshua Berov Yoetz. On cherche la Yeshua, on cherche la solution. Berov Yoetz, on va demander des conseils. Demande le Khatam Sofer, pourquoi il n'y a pas marqué Tshua, Teshua, Berov Yoatzim? Les conseilleurs. Il dit non, parce que tu vas en voir beaucoup. Mais il y en a un seul qui a raison, et toi tu verras bien quel est le conseil que tu dois. Ça veut dire que on n'est pas tout seul, pas seulement vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, mais il y a aussi d'autres. Ça veut dire que on n'est pas abandonné à son sort, et on ne doit pas croire qu'il y a des choses qui sont inéluctables, et que quelquefois dans la vie on est obligé de faire tout, toujours tout seul. Maintenant, il y a des fois, on va aller plus loin que ça, parce que c'est ça, en vérité, le sens de votre question. Si la solution, elle est anti-halakhique, si la solution, elle est interdite par le dîme, alors je vous répondrai ce qui est marqué dans la Gemara. Il y a marqué « Gdola avera lishma mi mitzvah shelo lishma ». Une avera, une transgression qui a été faite le Shem Shamaïm, elle est plus grande qu'une mitzvah qui a été faite pas entièrement le Shem Shamaïm. Encore une fois, je ne viens pas moi pour dire et pour donner une façon de résoudre les choses. Je viens juste pour vous dire qu'il y a des fois où quelqu'un conçoit que ce que sa conscience lui dit dans une absolue netteté, une absolue pureté, c'est contraire à la halakha. Je vais vous donner, et vous allez voir que malheureusement, ça a déjà existé dans le clan d'Israël. Au niveau de la Gemara, c'est loin de nous, mais tout le monde connaît, c'est une Gemara dans le traité de Yoma qui parle de Lulius et Papus, Arug et Lot. Lorsque le gouvernement romain, au temps de la révolte contre Rome, il y avait une révolte qui a éclaté dans la ville de Rome, de Lod. Et la ville de Lod, le gouvernement est venu, et a dit, si ceux qui ont fomenté la révolte ne se livrent pas, on rase la ville entière. Alors il y en a deux qui sont allés chez lui, qui s'appelaient Lulius et Papus. C'était deux convertis romains, c'était convertis au judaïsme. Et qui sont allés, ils ont dit que c'était nous, et ils ont été mis à mort. Il n'est pas évident que ce soit permis halakhiquement de faire une chose pareille. Parce que l'halakha stipule, Yamutu Kulam, que tout le monde meurt, mais on ne livre personne. Mais l'halakha n'interdit à personne de se livrer. Elle n'oblige personne de se livrer. Et elle ne conseille à personne de se livrer. Et il est possible que cela s'appelle une avera lishma. C'est-à-dire que quelqu'un sent en son âme et conscience que maintenant c'est la seule possibilité. La Gemara applique ce raisonnement à Yaël, lorsqu'elle a attiré dans sa tente le général Sisra, et elle applique ça à Esther, lorsqu'elle est allée la deuxième fois chez Achashverosh. Donc là, il faut être clair, ça existe. Si vous prenez plus récemment, il y a moins de 200 ans, il y a un livre qui s'appelle Les Tchouot Shevut Yaakov. C'était un rabbin alsacien, il s'appelle Rabbi Yaakov Auerbach. Dans ses tchouvot, il a une tchouva qui est extrêmement difficile à lire, mais qui est celle-ci. En Alsace, il y avait des bandes de brigands qui, à la place de s'en prendre au duc, au prince, au marquis, qui étaient ceux qui se partageaient le territoire, s'en prenaient aux juifs qui étaient les protégés de ces princes-là. Alors il dit qu'il est arrivé qu'une bande armée a demandé à ce que la population d'une ville livre tous les juifs du ghetto. Et la population de la ville a livré les juifs du ghetto. Et les gens, les brigands, ont dit que eux, ils ne désirent que les femmes. Les hommes, les enfants, les vieillards, tous peuvent rester. Donc on a répondu que l'alakha a été Yamutu Kulam, qu'on ne doit livrer personne. Et que tout le monde doit mourir, mais on a le droit de livrer personne. À ce moment-là, il y a deux femmes qui sont allées chez l'ennemi, qui se sont livrées à l'ennemi. Elles sont venues demander la halakha chez cet homme qu'on appelle le Shvut Yaakov. Quelle est la halakha? Est-ce qu'elles sont permises à leur mari? Ou est-ce qu'elles sont interdites à leur mari? Est-ce que ça s'appelle un adultère ou non? Même si on est possédé que la halakha, que ça s'appelle un viol et pas un adultère, et qu'on n'est pas interdit au mari. Il en reste que c'est aussi de la catégorie de la vera d'Ishma. Maintenant, la Gemara dit à propos de ces gens-là, I efshar lamod bimchitzatan de Gan Eden. Personne ne peut arriver dans leur part, là où ils se trouvent, au Gan Eden. Ça veut dire qu'on n'a rien le droit de reprocher à ces gens-là. Mais la raison, elle en est pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle le Shem Shamayim. Et que quelqu'un peut sentir à un moment que ce que lui pense être l'absolu Shem Shamayim lui commande de faire ça ou ça. Mais pour ça, il faudra avoir passé par le stade Alaric, par le stade de ce qu'on appelle Yoetz, le conseil, même par le stade que je vous ai indiqué. Il y a beaucoup de stades qui font que c'est des décisions à prendre en dernier recours. Mais c'est pas que ça n'existe pas. C'est pas que ça n'existe pas. On continue. Heviani, El Betayain. Heviani, il m'a amené El Betayain. Betayain, notamment, ça veut dire la cave à vin. La maison où se trouve le vin. Ve diglo alai ahava. Ve diglo, mot à mot, son drapeau, son étendard, alai, qui a été étendu sur moi, ahava, c'est celui de l'amour. Alors, on ne va pas pouvoir étudier tout le verset cette fois-ci, parce que c'est un peu long. Mais on va essayer déjà de comprendre la moitié du verset. Eviaï el bet ayaï. Motamo, il m'a amené vers la cave à vin. Tout le monde comprend de quoi il s'agit. Il s'agit du don de la Torah au Mont Sinaï. Pourquoi est-ce que la Torah s'appelle Yaïn? Tout le monde sait, parce que Aïn, c'est la valeur numérique. Yaïn, c'est 70. Dans la Torah, il y a Pardes, le Pshat, traduction littérale, ou compréhension littérale. Remez, Resh, c'est l'allusion. Dalet, c'est le drash. Le drash, ça veut dire l'interprétation. Et le dernier, c'est le sod, qui est le secret. Alors, il faut faire bien attention. Si on dit que la Torah est comparée au vin, parce que c'est l'élément le plus profond qui s'appelle Sod. C'est pour ça aussi qu'on dit Nichnas Yayin Yotze Sod. Lorsque quelqu'un boit du vin, ce qu'il a à l'intérieur de lui, ça sort. Si la Torah est comparée à une cave à vin vers lequel Eviani il m'a amené, il faut bien savoir quelle est notre relation par rapport à la Torah. C'est-à-dire que je suis un consommateur de la Torah. Je ne suis pas le possesseur de la Torah. Je ne suis pas le législateur de la Torah. Je suis un consommateur ou un étudiant. Souvent, on me pose la question. Et ça prouve une grande incompréhension des choses. Pourquoi est-ce que les rabbins ne légifèrent pas aujourd'hui différemment qu'avant? On voit que la Torah, elle est en pleine évolution. Il y a toujours des responsables, des chélots, des tchouvotes. Et comme on ignore beaucoup de ce qui se passe aujourd'hui, alors on vous dit, mais pourquoi les rabbins, ils ne permettent pas ceci, ils n'interdisent pas ça, ils ne font pas ci, ils ne font pas ça. Nous, nous sommes des consommateurs. Nous étudions la Torah. La Torah ne nous appartient pas. Et Viani, Elbet, Ayayin. On t'a donné la possibilité d'accéder à tous les degrés jusqu'au sod. Alors prends ce que tu veux, mais ne trafique pas. Ça veut dire que la notion de Eviani, c'est que je suis reconnaissant à Kadosh Baruch Hu de me donner la possibilité de comprendre et d'accéder à des mitzot, à des notions qui sont celles de la Torah. Mais pas que, tu sais, on t'a donné la Torah et que maintenant c'est ta loi et tu es obligé de légiférer. Là. On n'a donné à personne ni l'obligation, ni l'autorisation, ni de légiférer, ni de changer quoi que ce soit. On a permis à tout le monde d'interpréter et de donner son avis, ni plus ni moins. Ça veut dire que personne ne porte une responsabilité dans l'évolution ou la non-évolution. Entre nous, le postulat est faux, parce que l'évolution est plus grande les 100 dernières années que au moins le millénaire d'avant. Mais 10 ans même, qu'il n'y aurait plus d'évolution, qu'il y aurait une évolution. Il n'y a personne sur lequel on peut porter la responsabilité, parce que chacun, il a devant lui la Torah. Et Vian et le Betayahin apprend et prend. C'est tout. Donc, personne n'a de responsabilité vis-à-vis de l'évolution qui pourrait exister de la Torah, puisqu'elle dépend de la compréhension de chacun. Personne n'a de responsabilité vis-à-vis de la législation qui est celle de la Torah. La seule chose qu'on peut faire, c'est se conduire selon la compréhension que nous avons des choses. Donc, quelqu'un peut me demander, mais pourquoi tu comprends tordu? Ça, j'accepte. Ah, je dis, moi je comprends comme ça, tu comprends comme ça? On peut discuter. Mais que quelqu'un me dise, pourquoi tu ne changes pas? Et pourquoi tu ne fais pas ceci? Et tu as la possibilité de... Hein, c'est une notion qui ne peut pas exister, c'est ce qui est marqué ici. Et Viani, elle est rien. Alors maintenant, on peut comprendre la fin du verset. Ah bon. Il y a marqué que non seulement on a pu s'abriter sous la Torah, l'existence du peuple juif le prouve, mais, ou pirio matok le riki. Le fruit, c'est quelque chose qui est doux au palais. Ça veut dire que l'étude de la Torah, ça n'est pas quelque chose qui me coince, qui fait que je dois me tordre la tête et je dois essayer d'accéder à des idées et des choses qui me sont étrangères et que je ne comprends pas ou que je ne réalise pas. C'est que ce fruit-là, il est matok. En vérité, il est doux. Il est doux, ça veut dire il est facilement assimilable. Parce qu'on aurait pu imaginer que on nous demande de manipuler des notions dans lesquelles on n'est aucune part, on n'est aucune sensation, on n'est aucune possibilité de compréhension, on n'est aussi aucune possibilité de s'y retrouver, alors que en plus, pyriomatoclerique. Ça veut dire, ça aurait été déjà suffisant si on avait vu que la Torah, ça marche. Mais en plus, on peut y trouver un bon goût. Ça, c'est un plus. Ou pyriomatoclerique. Je vois que lorsque j'étudie la Torah et j'essaie de la comprendre, même dans ce que je ne comprends pas, c'est adapté à des formulations ou des concepts qui sont les miens. Et ça, c'est un plus. Ça aurait très bien pu être ardu et incompréhensible. Et on t'aurait dit, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Tu peux rien comprendre, tu peux rien justifier, tu peux rien valoriser, tu peux... C'est comme ça. T'as rien à voir, tu sais, le bon Dieu, c'est déjà pas mal qui t'abrite sous son ombre. Tu dis comment faire, vas-y, suis, et puis c'est tout. Ce qui a marqué, c'est que pyriomatoclerique. En plus, on peut s'y investir une vie entière et on y trouve de la jouissance. Seulement quoi? Toute la raison, mais pourquoi? Parce que Evian et Albetayen. Tu es un consommateur. Tu es quelqu'un qui peut trouver sa part, qui peut trouver sa conception, qui peut trouver son bonheur, entre parenthèses, dans ce fruit-là. Mais sache, jusqu'au plus profond des choses, tu n'es qu'un consommateur, tu ne possèdes rien, tu n'as droit en rien. C'est un plus qu'on te donne ces choses-là. La Gemara a dit, pire que ça encore, que c'est Moshe Rabbeinu qui l'a donné, mais qu'il n'était pas obligé de donner. C'est parce qu'il avait Aïn Tova. Moshe Rabbeinu, il aurait très bien pu occulter tout ce qu'Akadosh Baruch Hu lui a livré et nous faire un code de la Torah. Tatata, permis interdit, permis interdit, permis interdit, c'est tout. Voilà. Il a donné en plus pile pour la chez le Torah, ça veut dire la faculté de pouvoir comprendre les choses, de pouvoir jongler avec les concepts, de pouvoir les posséder. Ça c'est Moshe Rabbeinu parce qu'il était gentil, il a enseigné ça au peuple juif. Mais ça aurait pu ne pas être nécessaire. Ça veut dire ce qui a marqué ici. Et Viani El Betayaim, on te donne l'occasion de quelque chose. Mais sache que tu dois l'aborder comme quelqu'un qui est vrai qu'il y a une part dedans, et c'est pour ça qu'on dit Veten Chelkenu Betoratecha, donne-nous notre part, mais notre part c'est en tant que consommateur. Notre part c'est pas en tant que législateur. Moi j'ai une part, j'ai un droit sur la Torah, j'ai ceci, j'ai cela. Je n'ai aucun droit, j'ai rien du tout. On t'a donné un plus, c'est que Piriomatokriki, c'est une chose que tu peux investir toute ta vie et tu y trouveras ton bonheur. Mais c'est simplement si tu essaies de chercher quelle est ta part de compréhension et d'absorption des choses. Si tu essayes de le maîtriser et de faire comme si c'était toi et pas Akadosh Baruch Hu qui t'avait amené vers cette chose-là, mais on te l'avait donné, on te l'avait livré. Ça veut dire que plus que mon interprétation des choses, plus que ma compréhension des choses, plus que la façon dont j'ai de faire les choses, parce que selon ce que j'ai la notion de faire, j'aurai la notion de comprendre après, parce qu'il est évident que la pensée, elle est victime de mon action et de la façon dont je fais les choses, plus que ça, je n'ai pas. Alors c'est déjà pas mal, puisque ça se conduit, pyriomatoclerique. Mais plus tu n'as pas. Ce qui a marqué, Eviani El Betayai, il m'a donné la possibilité d'accéder à ces choses-là. Cette chose-là, elle me dépasse entièrement. Je n'en suis ni responsable, je n'en suis ni garant, je n'ai pas à donner des justifications à qui que ce soit. Et on a toujours vu dans l'histoire que les catastrophes ont commencé à partir du moment où on a essayé de justifier la Torah. La Torah, on doit la comprendre. On ne doit pas essayer de la justifier. Je n'ai pas de responsabilité. Et si je ne comprends pas quelque chose, je dois dire je ne comprends pas, je m'arrête ici. Mais à partir du moment où on a essayé de donner des justifications, on est les meilleurs, la Torah c'est la meilleure, et elle plus que les autres, on est toujours parti vers les autres, et en fin de compte, on s'est toujours mélangé aux autres. Il n'existe, et le meilleur moyen de le comprendre, c'est le mouvement qu'on appelle celui de la Haskalah, qui finalement a été le mouvement le plus assimilationniste qui n'ait jamais existé dans le peuple juif, parce que c'était une justification. La Torah, elle n'est pas barbare. La Torah est humaniste. La Torah est tout. Alors, puisque la Torah, exactement comme les idées des autres, alors il n'y a plus de différence entre la Torah et les autres. Et c'est là que commence le problème. Dès qu'on veut justifier, dès qu'on pense que on est mis en cause par notre non-compréhension de la Torah, on a ici, sachement bien. Et via Niel Betayaïn, le monde m'a amené, ça s'appelle Yaïn, je peux arriver jusqu'au sol, plus je ne peux pas, même ça, je ne sais pas si j'y arrive. Shalom Aleichem. Tu as quelque chose que tu ne comprends pas? Je ne comprends pas non plus, au revoir. Ah, tu as mis, alors c'est bidon, c'est. Tous les adjectifs ne me concernent pas. Ça concerne celui qui a mis le vin en bouteille, celui qui l'a mis dans la cave, celui qui m'a dit d'y entrer, tout ça, tu t'adresses à lui, le bureau de réclamation est ouvert, et puis c'est terminé. Chaque fois qu'on veut justifier, on perd les plumes. Pour deux raisons en vérité. D'abord parce que justifier veut dire traduire les choses dans le langage de celui qui vous met en cause. Alors on est perdu. Et si la Torah n'était pas humaniste? C'est possible. Pour moi, c'est pas si grave. Si pour quelqu'un c'est grave, il en tire les conséquences. Ça, c'est la première chose. Si la Torah n'était pas socialiste, si la Torah n'était pas socialiste, on ne peut quand même pas la mettre au goût de chaque qui tombe au bout de 70 ans. C'est impossible. Mais même si on voulait le faire, on n'y arriverait pas. Et comme on n'y arrive pas, il y a toujours deux possibilités. Ou on rabaisse au niveau des idées qui sont de l'autre, on dit quoi, tu es socialiste, mais la Torah, c'est la plus socialiste. Tu es communiste, mais la Torah, c'est la plus communiste. Ou alors on fait autre chose. Quand un représentant n'arrive pas à vendre sa marchandise, il a deux possibilités. Ou il se met en cause, lui le représentant. Je ne suis pas mon représentant. Ou alors il met en cause la marchandise. La plupart des représentants, lorsqu'ils ont une carte, ils commencent à essayer de vendre. Ils ne vont jamais dire, hein, parce qu'on leur demande, bon alors, tu as bien vendu. Ils vont aimer le produit, évidemment, le produit ne marche pas, le produit ci, le produit ça. Ils ne vont pas venir chez le patron dire, mais le représentant est évident, le représentant, c'est pas hyper. Donc on a deux possibilités. Ou on met en cause ce qu'on représente, ou on se met en cause soi-même. C'est beaucoup plus facile de mettre en cause ce que l'on représente que de se mettre en cause soi-même. Donc on est tout à fait tenté à dire, voilà, pour que la Torah puisse passer sous la porte des incroyants, on va enlever ceci, on va enlever cela, on va faire ceci, on va faire cela. Et ça, c'est une tentation tellement forte que finalement, il ne reste plus rien de la Torah. Il reste ce que l'autre a voulu qu'il reste. Donc vous lui avez vendu un produit qu'en vérité lui a défini, mais pas vous, vous l'avez défini. Tout ça parce que vous ne savez pas vous mettre en cause. On doit savoir dire à quelqu'un, moi je ne représente pas la Torah, moi je suis un consommateur comme toi, tu me demandes ce que je sais, je te dis, ce que je ne sais pas, je ne te dis pas. Au revoir, j'ai aucune responsabilité. Si on peut se maintenir dans cette situation-là, alors on peut continuer et les choses peuvent évoluer. À partir du moment où on prend sur soi et on croit que le destin de la Torah nous concerne, le destin du peuple juif, c'est notre affaire, le destin du monde, c'est à nous de le déterminer, on est complètement dans un porte-à-faux qui fait qu'on est obligé de brader. À partir du moment où on est obligé de brader, on agit en possesseur, alors que finalement, on n'est que des consommateurs. Donc ça, c'est ce qui a marqué ici dans le verset. Pirio matokoriki. En vérité, la Torah, en plus, elle est défendable. En plus, on peut la défendre. Mais tu n'arrives pas à la défendre, rappelle-toi. Et viens, yel betayay. On t'a amené pour que tu consommes. Tu n'arrives pas à consommer, ne consomme pas. Mais ne détruis pas. Ça ne te plaît pas, le goût est mauvais, et bien tu laisses. Maintenant, de dire qu'on va la mettre au goût du jour, ou qu'on va arriver à changer ceci, on va faire cela, nous, on n'a pas cette possibilité. On doit toujours se rappeler, et viens. Le bon Dieu m'a amené vers cette chose-là, il m'a donné cette chose-là à consommer. Plus, il ne m'a pas donné. Parce qu'il ne m'a pas donné plus. Je peux avoir mon avec ma part, mais en vérité, ma part, c'est la mienne. Et ma mienne, je peux ne pas arriver à la faire partager par les autres. Et ce n'est pas grave pour personne. Ça, c'est une chose qui doit être claire. Alors, le reste des questions?
Alors, vous dites que le goût peut être mauvais, donc on laisse. Mais justement, on nous avait déjà répondu dans le verset, le goût, on nous donne l'assurance qu'il est bon. En nous donnant l'assurance qu'il est bon, qu'est-ce que c'est que le goût? C'est quand même une participation du consommateur. C'est-à-dire, lui peut consommer et trouver bon, moi je peux consommer et trouver mauvais.
Absolument.
C'est quoi cette consommation? C'est la Torah. La consommation de la Torah, le goût, c'est la compréhension que nous avons de la Torah.
La compréhension et la pratique.
Et la pratique. Et elle est différente selon les individus.
Absolument.
Donc les goûts sont différents selon les individus.
Absolument.
Et pourtant, on donne l'assurance que nous aurons tous un bon goût. Ce qui signifie, donc peut-être aussi en pouvant cuire, que selon notre niveau d'interprétation et de réflexion,